Nous l'avons entendu dans la présidence de Sylvain, où il nous a fait lire le psaume 132 et le verset 12 qui nous dit « Si le fils observe son alliance, si tes fils, pardon, observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur le trône. » Nous allons partir sur la même ligne pour dire aujourd'hui que Dieu nous demande d'observer ses préceptes et son alliance. Il est vrai que, des fois, certains de ses préceptes suscitent des polémiques ou même de débats, mais ce qu'il nous demande, c'est de les suivre, parce que c'est lui qui nous les a donnés. Et s'il nous les donne, c'est pour notre propre bien, parce qu'il veut que nous puissions vivre la vie qu'il nous a promis. Pour cela, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui semble être polémique. Mais, vous savez, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, ce que nous voulons, c'est que nous puissions véritablement connaître cette vérité afin que nous ne puissions pas tomber dans les tentations de l'ennemi. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de prendre vos Bibles, de lire au livre de 1 Pierre, au chapitre 2, du verset 11 à 25, et nous continuerons par le verset 3, du verset 1 à 7. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 11 à 25, et chapitre 3, du verset 1 à 7. Alors nous lisons. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Serviteurs, soyez soumis à toute crainte, en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a portait lui-même nos péchés en son cœur sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les maîtrisions duquel vous avez été guéris. car vous étiez comme brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous passons au chapitre 3, du verset 1 à 7. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Alors, bien-aimés, si aujourd'hui nous faisions une étude sur les mots qui fâchent le plus, en particulier chez les jeunes femmes, qu'est-ce qui serait, selon vous, le premier sur la liste? Je vous laisse réfléchir. Et je ne veux pas vous demander la réponse. Moi, je pense tout de suite à un mot presque tabou. Ces mots, c'est l'abstinence. Il y a quelque temps de cela, j'avais lu un article dans un magazine chrétien qui rapportait une émission passée à la télévision au sujet de sida. L'un des invités d'honneur était l'abbé Pierre, que la plupart d'entre vous connaissent bien. Ce jour-là, les pauvres a osé parler de l'abstinence comme moyen efficace et sûr de protection contre le sida. Et en réponse, il a été hué et sifflé par le public présent dans la salle. Alors, sans plus tarder, vous l'avez dit vous-même, il existe aussi un mot qui semble être, ou si vous voulez, avoir les dons de provoquer les femmes. Ces mots, c'est la soumission. Les féministes haïssent ces mots. La simple évocation du mot fait penser qu'on va réduire madame à l'état d'esclavage de monsieur. Et ça, c'est inadmissible. Révoltons-nous contre l'asservissement qu'on veut nous imposer, disent les femmes, y compris les chrétiennes. D'autre part, j'avais lu dans un livre chrétien qui rapportait une étude biblique où une chrétienne célibataire avait vivement réagi alors que l'orateur du jour venait juste de terminer la lecture sur le texte que nous venons de lire, le 1 Pierre, au chapitre 3, verset 1 à 10 à 7. Quand elle s'écria, « Je ne me soumettrai jamais à mon mari. » Voilà, on a compris. Alors, bien-aimé, je me suis posé cette question. Pourquoi tant de réactions à ce sujet? Est-ce parce que la mentalité de notre époque rejette tout ce qui vient de Dieu? Ou parce qu'il y a trop d'abus y compris dans les églises, et que la soumission évoque pour certaines femmes l'écrasement, le rejet de leurs droits et le mépris de leur personne. En effet, c'est peut-être un peu tout cela. Chers frères et sœurs, nous nous trouvons là devant un commandement de Dieu que nous ne pouvons pas rejeter. Le refus reviendrait à se rebeller contre Dieu lui-même. Peut-être pour bien comprendre ce que le Seigneur veut, il faudrait que ces commandements ne reposent pas uniquement sur les épaules des femmes, comme un écrasant fardeau, mais plutôt sur les deux conjoints, comme un joug qu'ils portent ensemble. Les mots « soumission » bien-aimés évoquent toutes sortes d'images dans l'esprit des gens. Il y a l'image des esclaves obligés, entre guillemets, à la fermer, pardonnez-moi l'expression, en subissant les quatre volontés de leur maître. Il y a aussi l'image des femmes chrétiennes ternes et tristes qui subissent la domination écrasante de leur mari. Bien-aimés, j'ai du mal à concevoir que ces deux images que je viens de peindre puissent être compatibles avec un Dieu de bonté et de grâce. Si nous voulons comprendre la place de la soumission dans la vie nouvelle que Dieu nous donne, il nous faut écarter toutes ces mauvaises interprétations et idées reçues. Écarter aussi toutes ces mauvaises expériences vécues. En tant que croyants, nous nous devons de rejeter toute mauvaise façon de vivre en couple, gardant les commandements bibliques comme notre règlement intérieur. Faire autrement serait, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain de la bassine. Alors, puisqu'il nous faut garder le bébé, il nous faut donc prendre la soumission dans son vrai contexte. Ce contexte, nous le trouvons lorsque Pierre dit à tous les chrétiens, et je le cite, « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. » Le verbe « se soumettre » veut dire qu'une personne se place sous l'ordre ou l'autorité d'une autre personne. Pour avoir une bonne conduite parmi les croyants, au lieu de chercher à tout dominer, le chrétien, lui, doit se soumettre d'abord à l'autorité. Et il est vrai que le champ d'application d'autorité est très large. Nous l'avons entendu dans les textes que nous avons lus. Et Pierre cite les rapports entre chrétiens et gouvernants, les rapports entre esclaves et maîtres. Aujourd'hui, on dirait même les rapports entre salariés et employeurs. Et pour ce qui est de notre sujet du jour, le rapport entre mari et femme. Je voudrais insister là-dessus, bien-aimés. La soumission ne concerne donc pas que les femmes. Conformément à la volonté de Dieu, certaines personnes tiennent alors un rôle pour le bon fonctionnement de la société, de la famille ou même de l'Église. Les institutions humaines telles que la famille, le gouvernement, sont là pour nous aider à structurer et à organiser la vie. À l'époque de Pierre, le christianisme était un facteur inconnu et pas bien accepté par tous. Voilà pourquoi les chrétiens se devraient de mener une vie exemplaire afin de montrer à la société de l'époque que le christianisme visait non pas la révolution comme le prétendaient certains, mais la paix. Montrer aussi que les deux piliers de la foi chrétienne, qui sont le respect de l'autre et l'amour du prochain, étaient réellement ancrés dans leur cœur. Et c'est justement à cela que le christianisme est aujourd'hui encore le plus révolutionnaire pour notre société. Et c'est là aussi que notre foi rend témoignage de la grâce et de la bonté de Dieu. Alors, parler de la soumission sans ces deux aspects, c'est comme s'asseoir sur un tabouret auquel il manque deux de ses pieds. Et vous le savez, il ne tiendra pas vraiment debout. Dire que les femmes doivent se soumettre à leur mari parce que, entre guillemets, Dieu le veut, c'est trop pauvre comme argument ou comme réflexion. Pierre, notre modèle, nous amène plus loin. Il dit ceci: si les uns, quel que soit leur sexe, se soumettent aux autres, c'est à cause du Seigneur. Il y a deux façons de comprendre ces mots. Premièrement, comme une façon de vivre pour apporter un témoignage de la présence de Jésus dans sa vie. Et deuxièmement, comme un témoignage de son amour pour Jésus. Et de ces sept secondes de possibilité qui a été choisie par la traduction de la Bible du Semeur qui dit « Soumettez-vous pour l'amour du Seigneur ». Alors, en acceptant qu'une autorité soit au-dessus de lui, le chrétien manifeste son amour pour Jésus et rend témoignage au monde de la présence du Seigneur dans sa vie. Mais il y a encore autre chose. Jésus lui-même, notre modèle de soumission, il est notre modèle de soumission, je voulais dire, car il s'est soumis à l'autorité du Père. Et qui a bénéficié de cette soumission? Et aujourd'hui, c'est nous. C'est peut-être là un argument supplémentaire qu'il faut insérer dans le débat de la soumission. C'est quelqu'un d'autre qui en bénéficiera. Il ne faut pas croire que ce bénéfice soit injustement gagné ou immérité. Il faut le prendre plutôt comme une offrande d'amour. Je l'ai dit parce que trop souvent, l'idée de la soumission de la femme est vidée de tout son aspect positif. Alors, si dans notre texte, nous ne lisions que « femme », que chacune soit soumise à son mari, eh bien, je n'aurais plus rien à dire. Mais les femmes, si. Des cris de protestation vont s'élever jusqu'au ciel. Et même les oreilles de Dieu vont s'échauffer. Je regrette que tant d'hommes, y compris des chrétiens, se soient comportés de cette manière-là envers les femmes. C'est tordre la parole de la pire de manière et faire du mal, bien évidemment, aux femmes. Remarquez bien que ces mots, comme nous l'avons lu, de même, insère la soumission de la femme dans le contexte global de la soumission de tous aux autorités. Donc, je le répète une fois encore, les femmes ne sont pas les seules à être concernées par la soumission. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, lorsque la femme se soumet, c'est d'abord pour le Seigneur. Et cela peut avoir comme effet, comme nous l'avons lu dans le texte, la conversion du mari s'il ne l'était pas encore, ou même s'il avait encore de doutes dans sa relation avec son Dieu. Il y a un point essentiel à comprendre, bien-aimé. La soumission de la femme est une attitude avant de devenir un acte. Cette attitude du cœur se manifestera par comment la femme organise et gère sa vie de couple. Vous le savez, certaines semblent passer plus de temps que d'autres à cultiver leur look suis pas contre les looks de femmes, mais croyez-moi. Dans les années 80, un sondage a été réalisé auprès des Américaines pour savoir combien de temps elles passaient chaque matin dans la salle de bain. Vous vous en doutez, les femmes vivant en Californie du Nord ont dépassé la moyenne américaine qui était de 45 minutes. Je pense que ce sondage est encore d'actualité aujourd'hui, même ici en France. Alors, il faut les voir sortir de la salle de bain, toutes laquées, maquillées, si parfaites qu'on n'ose pas les toucher, de peur de défaire le maquillage. Pourtant, une femme peut avoir une belle plastique, un bon look, mais au final, pourrir la vie de son mari. La Bible, bien aimée, n'est pas contre la beauté physique des femmes. En plus, la femme est libre de s'embellir. Mais je pense personnellement que la femme devrait s'occuper davantage de ce qu'elle est devant Dieu que de son apparence extérieure. Il y a des valeurs plus grandes dans la vie que celles des beautés et de l'attrait physique. Et la valeur suprême, c'est l'approbation de Dieu. Chers frères et sœurs, si une chrétienne n'est pas obligée d'être mal habillée ou moche pour être spirituelle, toutefois, elle doit s'occuper de son cœur plus que de son look. C'est l'essence de mots que nous avons lu dans le texte au chapitre 3, au verset 4 du chapitre 3, où on nous dit « la parure intérieure est cachée dans le cœur ». Alors, bien aimé, l'essence de la personne n'est donc pas dans son apparence, mais plutôt dans son cœur. Le cœur caché est la vraie personnalité d'un individu. La personnalité perceptible à travers ses paroles et ses gestes. La beauté de vêtements peut se flétrir. Les cheveux peuvent tomber ou griser. Mais les qualités spirituelles sont inaltérables et éternelles. La douceur et la tranquillité ont une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi l'esprit doux et tranquille, comme nous avons lu dans le texte, est à cultiver. Jésus, l'exemple même de cet esprit. Ici, je voudrais parler aux hommes, autant qu'aux femmes, bien entendu. Chers frères et sœurs, celui ou celle qui est rempli d'un tel esprit ne sera pas connu pour ses colères à la maison. Il ne recherchera pas à provoquer des querelles, ni à semer les troubles dans son couple. Il sera une source de paix dans la famille et autour de lui. Pour être honnête, il faut admettre qu'un tel esprit n'est pas inné chez les hommes et même chez les femmes. Au sein d'un couple, le mari et la femme sont donc confrontés à l'imperfection de l'autre. Tenez, tout est au début du mariage, pardon. Tout est beau et parfait. On a tendance à se regarder pendant toute la journée sans détourner les yeux. Puis, après un certain temps, c'est la femme qui remarque que son mari ne remet jamais le bouchon de tube de dentifrice. Encore, le monsieur abandonne ses chaussettes dans tous les coins de rue, de coins de la maison, pardon, sans pour autant le ranger. Et les exemples sont multiples. Eh oui, nous sommes tous imparfaits. Sans l'aide de Dieu et sans la volonté de vivre pour Jésus, ce que Dieu demande ici devient difficile à atteindre. Pour y arriver, il faut que tous les jours, sa grâce et son amour nous remplissent les cœurs. la soumission de la femme érigée en loi immuable, c'est comme ça, génère souffrance et tension. Mais la vie, la nouvelle vie, si vous voulez, en Christ, n'est pas d'imposer que la femme soit écrasée. Et soumission ne rime pas avec privation de droit. La vie en Christ est la liberté de vivre selon la grâce et l'amour, choisissant l'obéissance afin de faire du bien aux autres et par là manifester son amour pour Dieu. Chaque jour donne à une femme l'occasion d'apporter ce témoignage positif. Chaque jour, elle a l'occasion de bénir son mari par son comportement, par ses paroles. Voyant son attitude, son comportement, celui-ci, le mari donc, il va être focalisé sur ce qu'il voit devant ses yeux. Et en conséquence, il va bénir l'Éternel. La soumission de la femme selon la beauté et la qualité de son esprit devient donc un témoignage par les actes. Elle glorifie donc Dieu par la qualité de sa vie. Et c'est un des buts principaux de la soumission, bien-aimée. Que d'autres femmes, des dieux, aient pu vivre ce témoignage auprès de leur mari est une façon et un encouragement pour les chrétiennes que vous êtes. Ayant placé leur espérance en Dieu, ces saintes femmes pouvaient se soumettre à leur mari, nous l'avons lu dans les textes. Nous ne connaissons pas leur nom, sauf celui de Sarah, la femme d'Abraham, comme on l'a dit. Leur esprit doux et tranquille s'est manifesté par la soumission et l'obéissance et révélé la beauté de leur parure. Pourquoi Pierre reprend-il Sarah en exemple? Elle qui rigola en apprenant qu'elle donnerait naissance à un fils, comme on le voit dans Genèse au chapitre 18, verset 12. Il ne l'a pas fait parce qu'elle était parfaite, loin de là. Mais parce qu'elle appelait son mari « mon Seigneur », ce qui est une marque de respect et de soumission. Je ne veux pas vous demander, chères sœurs, d'appeler, pour ceux qui sont mariés, vos maris les seigneurs, parce que cela vient du cœur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut vous le dire comme ça. Les chrétiennes auxquelles Pierre écrit sont des filles de Sarah, car elles suivent son exemple. Et comme Sarah était co-héritière de la promesse d'un fils et d'un peuple, elles aussi sont co-héritières de l'espérance de Dieu. C'est pourquoi elles n'ont rien à craindre, même devant un mari qui ne croit pas au Seigneur. Là, je suis sûr qu'il y a des maris qui s'exclament intérieurement: quel bonheur d'avoir une douce femme à la maison. Oui, c'est vrai. Mais le texte ne s'arrête pas là. Chers messieurs, c'est à vous maintenant que je veux m'adresser. Étant partenaire au sein du couple, vous avez votre part à faire. Tout ne repose pas sur le dos de votre femme. Chacun doit y mettre du sien. Le mari doit reconnaître que sa femme est un être plus faible. Mais faible en quoi? Eh bien, Pierre ne nous l'a pas dit. Peut-être cette faiblesse est-elle physique, peut-être morale, ou peut-être d'ordre spirituel. Bien-aimés, les femmes ne sont pas des clowns. Et elles n'ont pas toutes les mêmes faiblesses. Mais quoi qu'il en soit, le mari ne doit pas en prendre avantage, ni abuser de son autorité, entre guillemets. Il doit reconnaître les domaines où sa femme est faible afin de la soutenir et de l'encourager. Il doit reconnaître les besoins de sa femme afin de les combler. Comme vous pouvez le constater, finalement, c'est du donnant-donnant. Les hommes ne peuvent pas se contenter d'être des donneurs d'ordre sans se soucier de l'effet de leurs paroles et actions sur leurs femmes. Le mari est appelé à tout faire pour respecter et honorer son épouse, parce qu'elle partage le même héritage avec lui. Cela revient à dire que sa femme n'est donc pas un machin ou un objet sans valeur. Elle est aussi digne de respect que lui. Et cette idée révolutionnaire, de l'époque aiderait le chrétien à témoigner de l'amour de Dieu pour tous, hommes comme femmes. Comme nous pouvons le constater, la soumission ne rend pas la femme inférieure à son mari, spirituellement et devant Dieu. Elle est en position d'égalité avec lui. Elle est au bénéfice du même héritage que son époux croyant. Elle a la même relation avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ et a aussi des dons spirituels à utiliser pour le bien de l'Église. Tenez, est-ce en rouspétant parce que le repas était prêt à 19h45 au lieu de 19h15 comme monsieur l'aurait souhaité, que celui-ci honore sa femme? Je pense non. Si Dieu confie à l'homme une certaine autorité, cela ne veut pas dire qu'il a le droit d'écraser sa femme. Chaque femme étant différente, chaque mari doit réagir en fonction de ce qu'est sa propre femme. Il n'y a pas de comportement type définissant les rapports entre mari et femme. Lorsqu'un mari cherche à honorer et à respecter sa femme, sa conduite portera du fruit dans sa relation avec elle. Alors, j'aimerais terminer ce message avec les paroles de la Bible dans la suite du texte que nous avons lu au début de ce message. Je prends 1 Pierre, chapitre 3, du verset 8 à 12. Voici ce qui est dit. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors, bien-aimés, ce que nous venons de lire là résume pratiquement tout ce que Pierre vient de dire sur la soumission. La soumission ne se voit pas lorsque la femme marche 5 pas devant son mari, la tête baissée parfois, comme on le voit dans certains pays, bien évidemment. La soumission ne rend pas l'homme supérieur à la femme, je l'ai bien dit. La soumission est en rapport avec la manière dont la femme considère et traite son mari. Elle va de pair avec la conduite respectueuse du mari. Quand les deux agissent en conformité avec la volonté de Dieu pour leur couple, ils se bénissent mutuellement. Alors, quel serait le témoignage d'un foyer où prime l'amour et la paix? Eh bien là, Dieu ne peut qu'être glorifié. Bien-aimés, ce message ne s'adresse pas seulement pour ceux qui sont mariés, bien évidemment. Il s'adresse aussi pour ceux qui aspirent à vivre un jour ensemble, en couple. Dieu nous donne des préceptes. Il nous demande de les suivre pour notre bien. Ce n'est pas pour son bien, lui. Parce que lui, il est dans son trône de gloire. À nous de suivre ces préceptes et de les mettre en pratique afin que notre vie soit meilleure et qu'un jour nous puissions vivre avec Jésus comme co-héritier dans le royaume des cieux. Que notre Seigneur vous bénisse. Merci.